France Inter et le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand la justice se fait attendre, comment faire plus vite et mieux? Ce sera l'un des enjeux des états généraux de la justice lancés aujourd'hui. Une base pour les réformes à engager, sujet politique, mais surtout très concret. Vous allez l'entendre dans un instant. En attendant le coup de pouce de l'État, dans les tout prochains jours, on remplit sa cuve de fioul avant l'hiver et on aimerait qu'il y ait erreur sur la facture, mais hélas non, c'est ce qu'on va voir. À la une ce matin, il y a aussi l'Europe qui se penche sur l'agriculture et l'alimentation cette semaine et les lobbies agro-industriels sont dans la place. Les paramilitaires du groupe Wagner envoyés par la Russie dans le collimateur de Jean-Yves Le Drian. La culture et son septembre noir va-t-elle enfin sortir de la crise? Ce sera l'objet du grand entretien, Nicolas.
Oui, on va effectivement faire ce tour d'horizon avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot à notre micro avec Léa dans une bonne vingtaine de minutes. Appelez-nous, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
Et justement, si Julien Sorel faisait des pointes, le rouge et le noir, version ballet, ça c'est l'événement de l'automne à l'Opéra Garnier à Paris.
France Inter.
Son budget a beau avoir été augmenté de plus de 30% depuis le début du quinquennat, la justice ne marche toujours pas sur ses deux pieds. Trop lente, ça ne se discute pas, trop laxiste. Selon l'opposition de droite et les policiers, c'est donc un nouveau grand chantier qui sera lancé aujourd'hui par Emmanuel Macron à Poitiers, des états généraux de la justice, fait d'échanges et de débats, pour aboutir à des réformes proposées pour le prochain quinquennat. Avec un enjeu majeur pour rapprocher l'institution des citoyens, réduire les délais de jugement, ces années à attendre avant de voir son affaire tranchée. Exemple au tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, avec Mathilde Vinceneux.
Si l'on prend l'exemple des affaires civiles, celles du quotidien, il faut en moyenne 1 an et demi pour obtenir un jugement à Nanterre. C'est le constat de la présidente du tribunal judiciaire, Catherine Potrat. Les magistrats croulent sous les dossiers.
C'est vrai que beaucoup travaillent le soir, beaucoup travaillent le week-end pour sortir donc des jugements parce que moi, je reçois des courriers des justiciables, effectivement. Ils se plaignent de ne pas avoir des délais raisonnables. Ils se plaignent aussi de ne pas être suffisamment écoutés.
La présidente a fait les comptes. Il faudrait 20 magistrats supplémentaires et autant de greffiers pour espérer faire mieux. En attendant, patience, et c'est parfois difficile. Exemple, avec ce couple qui habite le dernier étage d'un immeuble, le toit fuit, l'eau dégouline sur les murs, le syndic refuse les travaux.
Quand vous rentrez chez eux, vous avez l'impression d'entrer dans une cave. Ça pue.
Frédéric Santini est l'avocat du couple.
Ce dossier a été clôturé le 4 octobre 2021 et je le plaiderai le 6 septembre 2022. Donc pendant un an, mes mandants, ils vont rester avec leur appartement qui pue. Vous devez attendre que la justice retrouve du temps, gère des stocks. Vous êtes un stock.
Pour ces délais jugés déraisonnables, l'État est d'ailleurs régulièrement condamné.
Et devant la justice aujourd'hui, la communication des années Sarkozy, ça remonte aussi. Début du procès, des sondages de l'Élysée sur la popularité du président, sur ses rivaux, ses ministres, son épouse. Commandé sans appel d'offres pour plus de 7 millions d'euros aux sociétés de Patrick Buisson et de Pierre Giacometti, l'ancien patron d'Ipsos. Sur le banc des prévenus, il y aura aussi l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, mais pas Nicolas Sarkozy, protégé par son immunité présidentielle et qui refuse de venir témoigner au procès.
Il est 8h04. Comment remplir son réservoir d'essence ou sa cuve de fioul sans sueur froide, Florence, au moment de payer?
Et oui, Emmanuel Macron a promis vendredi de ne laisser personne dans le désarroi face à l'augmentation des prix des carburants. Un geste du gouvernement est donc attendu dans les tout prochains jours, d'autant que c'est la saison des livraisons de fioul avant l'hiver à 1,10€ le litre minimum. Promesse d'une facture douloureuse. Alors les consommateurs font comme ils peuvent, Lauriane Delanoë, pour tenter de réduire la dépense.
Pensez à remplir vos cuves de fioul maintenant pour anticiper de nouvelles hausses. Voici l'une des publicités du moment sur Facebook, et ça marche. Maxime, livreur du groupe Popin, enchaîne les tournées en Île-de-France.
La plupart des gens, ils appellent en urgence avec le froid et tout ça, mais le truc, c'est qu'ils ne demandent pas de remplir énormément leurs cuves. La plupart demandent plutôt du 1000 litres. Jusqu'à présent, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit le fioul, c'est fou comme il a augmenté, ils ne peuvent pas se le permettre financièrement.
Monsieur, là, je vous ai versé 1994 litres.
C'est combien le litre, là?
C'est à peu près 1,095€.
C'est beaucoup.
Lucien, ce client retraité, est un habitué de l'entreprise depuis 40 ans.
Quand le prix était de 0,6 ou 0,7 euros le litre, on ne faisait pas trop attention, mais maintenant, il va falloir se pencher sur la question. On ne fait pas de comparatif, on devrait. Il y a des sites.
Oui, des sites comme Fuel Reduc.
Le principe de la plateforme, c'est justement d'avoir plusieurs partenaires et proposer à tout moment le meilleur prix.
Maël Ricard, directrice des opérations de la plateforme. Ce site informe ses clients par email sur les hausses de prix.
Par rapport à une journée basique, on pourrait avoir deux fois plus de commandes le jour d'envoi de notre email. C'est en moyenne 400 commandes jour en ce moment.
La plupart de ces plateformes et des associations comme l'UFC Que Choisir proposent aussi des commandes groupées pour réduire les coûts.
Et quand on n'a pas trop de problèmes de pouvoir d'achat, c'est aux vacances que l'on pense en ce moment. La Toussaint et ses congés, traditionnellement pas trop loin et pas trop coûteux. Sauf qu'en cette année, c'est différent. Philippe Lefebvre, les professionnels du tourisme se frottent les mains.
Dans le monde du tourisme, on ne s'y attendait pas, mais tous les indicateurs sont à la hausse. Ainsi, une grande chaîne de clubs de vacances enregistre une progression des réservations de 20% par rapport à la même période de 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Et tous les produits touristiques intéressent les candidats aux vacances, y compris les autovannes mises en place par Michel Salin. C'est l'un des principaux tour opérateurs français.
On propose la location pure et simple d'un van, ou alors nous proposons des van tours, on leur propose d'organiser leur voyage à leur guise ou en fonction de propositions que nous leur faisons avec des visites insolites.
Mais le plus surprenant reste la très forte demande pour les séjours à l'étranger, Tunisie, Maroc, mais également République Dominicaine ou Maldives. C'est ce que constate Mélanie Lemarchand, la directrice de Lidl Voyage.
On enregistre une prise de commande de plus 26% par rapport aux mêmes dates en 2019. Je pense qu'effectivement, les dernières vacances de la Toussaint l'année dernière se sont peut-être déroulées plus en famille. Et cette année, on a envie de partir, peut-être se faire plaisir en club, en circuit.
Enfin, dernier constat, la durée moyenne des séjours s'allonge, passant de 7 à 10 jours. Et les vacanciers seraient visiblement plus cigales que fourmis, avec des dépenses en hausse de 15 à 20%.
Et pour ces vacances, on évitera l'île de la Palma, aux Canaries. D'ailleurs, les avions n'y atterrissent et n'y décollent plus depuis samedi à cause du nuage de cendres qui s'échappe du volcan Cumbre Vieja. Ça fait presque un mois qu'il est sorti d'un sommeil de 50 ans et qu'il crache de la lave. 2000 bâtiments ont été engloutis, 7000 personnes n'ont plus de toit. Reportage signé Thibault Lefebvre.
Depuis près d'un mois, Pascal vit dans un camion aménagé, garé au bord de la plage.
Mes habits, ça tient dans trois tiroirs. J'ai 70 litres d'eau, j'ai un futon, voilà, c'est tout.
Car sa maison de la station balnéaire de Puerto Naos, à moins de 5 km du volcan, est sur la trajectoire d'une des coulées de lave.
On guette l'arrivée du magma. On vit dans l'angoisse, c'est quelque chose d'usant, ouais. Donc là, on voit la lave s'avancer. La maison que j'ai là, bah, c'est toute ma vie. Si on imagine encore un ou deux mois d'éruption avec du magma qui sort et qui sort et qui sort, c'est une grosse, grosse incertitude. C'est chaud, quoi.
Et pour le moment, les scientifiques sont unanimes. Il est impossible de prédire la fin de l'éruption. Vicente Soler est vulcanologue au CSIC, le CNRS espagnol.
On ne sait pas. Depuis l'éruption de 1585, qui a duré 84 jours, toutes les éruptions jusqu'à aujourd'hui ont duré moins longtemps que la précédente. Le San Juan, en 1949, n'a duré que 38 jours. Et le Teneguía, en 1971, 25 jours. Avec celle-ci, on en est à 29. Ce qui rompt une série historique de 436 ans.
Et les indicateurs ne laissent pas entrevoir d'accalmie, car les séismes continuent, le volcan est gonflé sous la pression du magma et la quantité de dioxyde de soufre rejetée dans l'air est toujours importante.
Thibault Lefebvre à La Palma, aux Canaries. Quand le Covid flambe au Royaume-Uni, plus de 40 000 cas par jour la semaine dernière, c'est 10 fois plus qu'en France. L'incidence n'a plus été aussi élevée depuis janvier dernier. 150 décès par jour. Le pays, depuis cet été, vit sans aucune restriction, ni passe sanitaire, ni masque obligatoire, à part dans les transports.
Il est 8h09 pour une agriculture plus verte et une assiette plus saine. L'Europe a un plan.
De la ferme à la fourchette, c'est son nom. Objectif, réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici 2030, ou encore instaurer un Nutri-Score à l'échelle de l'Union. Les eurodéputés se prononceront sur ce plan cette semaine à Strasbourg, après des semaines d'intense lobbying de ceux qui ont le plus à perdre dans cette affaire. Angélique Boin.
Un document interne au principal lobby de l'agro-industrie que nous avons pu consulter le confirme. Organisation de conférences, actions auprès d'eurodéputés, de ministres et même du grand public via la presse ont été méticuleusement planifiées. L'eurodéputé vert Benoît Biteau.
On voit l'agitation d'action depuis quelques semaines pour essayer de déconstruire, voire d'enterrer cette stratégie de la ferme à la fourchette. On voit ressortir les vieux poncifs du style avec des stratégies comme celle-ci, on va affamer la planète, on va affaiblir le revenu des paysans.
Des arguments balayés par les Verts et les études qu'ils fournissent, mais alimentés par ailleurs par un rapport alarmiste de la Commission européenne. On y lit que ce vaste programme pourrait faire chuter fortement la production agricole. Étude publiée tardivement, au cœur de l'été, mais qui était partielle, s'est ensuite défendue la Commission. Anne Sander est eurodéputée de droite. Pour elle, il ne faut pas s'engager trop vite sur des objectifs chiffrés trop contraignants et surtout sans visibilité.
On se fixe des objectifs sans savoir quel sera l'impact sur l'alimentation, la production agricole. Ça pose quand même un certain nombre de questions, et sur le fond et sur la forme.
La stratégie européenne de la ferme à la fourchette, c'est 27 législations à négocier. Les débats ne font que commencer. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Rentré à Paris, l'ambassadeur de France en Biélorussie, à qui les autorités ont demandé de quitter Minsk alors que la France n'a pas reconnu les résultats de la présidentielle du mois d'août et le sixième mandat d'Alexandre Loukachenko. Quant au voisin russe, il avait recruté une taupe au sein du cabinet du ministère français de la Défense en 2017. Jean-Yves Le Drian était alors aux manettes. C'est l'ancien directeur du service de renseignement extérieur Bernard Bajolet qui l'a révélé hier soir dans un reportage de France 5, confirmant les informations qu'avait sorti Mediapart. Jean-Yves Le Drian, qui n'en a pas fini avec la Russie à son poste de chef de la diplomatie, il voit d'un très mauvais œil l'arrivée possible des mercenaires du groupe Wagner au Mali, qui ont déjà participé au conflit ukrainien, syrien, libyen, et dont la présence en Centrafrique a été lourdement condamnée par le ministre hier soir.
Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes, qui fait la guerre par procuration.
Pour le compte de la Russie ?
Pour le compte de la Russie.
Il n'y a pas de doute là-dessus ?
Même si la Russie s'en défend, la lisibilité est tellement forte que ça ne trompe personne. Avec en plus un leader de ce groupe qui est très proche de Vladimir Poutine, tout le monde le sait. Mais c'est plus grave que cela, parce que lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. C'est tout à fait condamnable et ce n'est pas envisageable pour nous. C'est tout à fait incompatible avec la manière dont nous concevons la lutte contre le terrorisme au Mali.
Jean-Yves Le Drian, hier soir sur France 5. Une très belle soirée pour l'OM à Marseille hier soir. Victoire 4-1 face à Lorient. L'OM s'empare de la troisième place du classement de Ligue 1 après un dernier hommage au Vélodrome à Bernard Tapie de la part des joueurs et des supporters. Indissociable de l'élite du tennis mondial, Roger Federer, dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde pendant 18 ans et demi, sera rétrogradé aujourd'hui à la 11e place. Et c'est presque un séisme, Thomas Coignac, puisque Federer n'a quasiment jamais cédé cette place depuis ses débuts sur le circuit en l'an 2002.
C'est l'époque de la queue de cheval et du bandeau sur la tête. Roger Federer a 20 ans, il entre dans le top 10 en battant Marat Safin en finale du tournoi d'Hambourg. Un talent rare, c'est le cas de le dire. L'année suivante, Federer remporte son premier grand chelem Wimbledon. En 2004, il est numéro 1. Voilà ce que disait Cédric Pioline de lui cette année-là.
Il est bien plus complet que ne pouvait l'être un Sampras parce que il est plus léger, il bouge mieux et je pense qu'il a beaucoup plus de coups dans son répertoire adapté à la terre battue. Il varie à merveille le revers lifté, le revers slicé.
237 semaines de suite en haut du classement, puis arrive Nadal, Djokovic. Federer sera numéro 1, un peu, 2 ou 3 beaucoup. Il reviendra sur le trône en 2018 dans un incroyable comeback. À 36 ans, il devient le plus vieux numéro 1 de l'histoire.
Forcément, je préfère toujours de rester numéro 1 mondial, mais je sais aussi tôt ou tard, je vais le perdre. Alors, ça me fait plaisir de l'être.
Sauf que depuis, Federer n'est revenu qu'une seule fois en finale de Grand Chelem. Il sort donc logiquement du top 10. Pas sûr qu'il y revienne un jour. À 40 ans, il vient de se faire opérer du genou. Même son retour sur les courts est incertain.
Et voici d'autres sportifs de haut niveau, les danseurs de l'Opéra de Paris, qui renouent en ce moment avec la pure tradition du ballet classique sous la direction de Pierre Lacroix. La Lacote. Le chorégraphe de 89 ans adapte le Rouge et le Noir de Stendhal, Stéphane Capron, dans une super production au Palais Garnier.
J'en ai quand même vu de toutes les couleurs, pas spécialement du Rouge et du Noir.
Ce ballet monumental de Pierre Lacote a failli ne jamais voir le jour.
Parce que c'était très compliqué. Un jour, on me disait qu'on ne pouvait plus donner le ballet, après on le retardait, après on le redonnait, on ne le donnait plus.
Repoussé par les grèves, puis par la pandémie, répété d'abord par Zoom, cette œuvre monumentale est enfin créée et la patience de Pierre Lacote récompensée.
Ça fait 5 ans, j'ai commencé à y penser très sérieusement. Et puis petit à petit, j'ai fait une adaptation qu'il fallait faire parce que le roman merveilleux de Stendhal, fallait faire des coupures et scinder une adaptation qui correspondait bien au public de danse. En dansant, on parle avec nos jambes, mais il fallait aussi définir des personnages précis.
En écrivant le ballet, Pierre Lacote a pensé à l'étoile Mathieu Gagnon pour le rôle de Julien Sorel.
C'est un vrai cadeau, une vraie chance d'avoir une création sur un grand ballet classique narratif. Moi, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, que j'espérais.
Des décors aux costumes jusqu'au choix des extraits des 20 œuvres de Jules Massenet, Pierre Lacote a tout conçu pour ce ballet qui a mis à contribution le savoir-faire des équipes de l'Opéra de Paris. L'atelier couture a travaillé 18 mois pour créer 400 costumes. Il a fallu 6100 m² de peinture et 14 mois de travail pour créer les 35 toiles qui forment le décor.
Voilà donc le Rouge et le Noir jusqu'au 4 novembre à l'Opéra Garnier de Paris. Comme on ne peut pas tous y aller, sachez que les cinémas UGC, certains cinémas indépendants, diffuseront ce ballet ce jeudi, cette semaine, à 19h30.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et attention au brouillard sur le nord-est, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, sur les Ardennes, mais aussi vers Nancy, Mulhouse, Dijon, jusqu'au Val-de-Saône et au Nivernais. Sur la Bretagne, le jour s'est levé sous les nuages, car on a l'arrivée d'une perturbation avec déjà quelques gouttes ce matin sur le Finistère et puis un ciel nuageux du Cotentin à Nantes, où les brouillards sont aussi nombreux. Ailleurs, le soleil se lève sous un mercure contrasté entre les -3 en Haute-Marne et 0 en Haute-Loire et les 16 en Bretagne comme en Corse. Il fait 6 à Paris, ou Lyon, et 15 à Bordeaux.
Et le temps sera ensoleillé sur les trois quarts du pays cet après-midi.
Oui, et même chaud hein, dans le sud-ouest avec l'arrivée du vent de sud qui réchauffera également l'atmosphère jusqu'au nord du pays et encore plus demain. Faudra en profiter avant l'arrivée d'un changement de temps pour mercredi. Alors côté ciel, après la dissipation des brouillards et des brumes, vous profiterez d'une journée ensoleillée, parfois voilée, excepté toujours sur le nord-ouest où les pluies vont gagner le Cotentin jusqu'à la région nantaise et le ciel sera de plus en plus nuageux sur les côtes Atlantiques sous un mercure en hausse. On sera souvent 3 degrés au-dessus des normales. Il fera 18 à Rouen et Strasbourg, 20 à Paris et à Nantes, 21 à Cavaillon et Bastia, comptez 23 à Poitiers, 26 à Bordeaux et Andailles. Et demain, ce sera le pic de douceur.
Merci Marie-Pierre. À tout à l'heure. 8h17, géopolitique.